Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous avons le plaisir de vous retrouver ce mardi 21 mars 2023. Pendant que nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club de la Presse sur Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Central FM à Sokodé, Radio La Paix, la Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Lumière à Nero, mais également les auditrices, auditeurs de par le monde, vous qui êtes connectés avec nous par divers canaux et autres médias numériques. Le temps encore pour nous de saluer les techniciens qui réalisent l'émission aujourd'hui, c'est le duo Thomas Datevi et Jérôme Dakoucha. Nous voudrions particulièrement féliciter et saluer le complexe commercial Samouya Delta Sarl, qui est ici en face de l'usine Sotoko à Talo, dans la banlieue sud de Takpamé. Il s'agit d'un dépôt des produits de la SNB SA pour desservir tous les environs, avec l'espoir que le club La Presse va être délocalisé à Talo, dans le complexe Samouya Delta, un de ces jours. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la célébration du 20 mars. C'est la journée internationale de la francophonie avec le français en partage. Nous allons également parler de la presse ou des journalistes avec le français Olivier Dubois qui vient d'être libéré après près de 2 ans de prise en otage, pendant qu'au Togo, le débat, pour ne pas dire la polémique, porte toujours sur les condamnations par la justice des confrères Ferdinand et Isidore. Et nous sommes à quelques jours des 3e et 4e journées qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Togo réussira-t-il à se qualifier? That is the question à laquelle nous allons essayer de débattre. Et puis, sur les traces de Mohamed Bazoum, dans la politique de bon voisinage et de coopération sud-sud, avec cette visite qui s'opère, que le président nigérien opère chez nous ici à Lomé de Puzier. Et comme c'est une tradition, nous prenons toujours une pensée du jour pour nous inspirer. Aujourd'hui, c'est le philosophe Lao Tse qui nous enseigne que la nature ne se hâte jamais et pourtant tout est accompli. Encore une fois, la nature ne se hâte jamais et pourtant tout est accompli. Aimé Lebon, bonjour.
Oui, bonjour Sass et bonjour à tous les confrères qui sont ici présents. Je voudrais parler d'Eric, je voudrais parler également d'Isidore Colomb, mon grand frère, mon frère aîné. Et bien sûr, auditeurs, auditrices qui nous suivaient, ben voilà, je suis là.
Merci, comme là, et mais que nous affectionnons plutôt Aimé Lebon avec les deux autres confrères tels que Aimé l'a déjà annoncé. Eric Hugues, parcours de Johnson, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour chers confrères. Et le même plaisir d'être là tous les mardis pour essayer de décortiquer un peu l'actualité chez nous et ailleurs dans le monde.
Merci. Juste rappeler que Eric Johnson, c'est le directeur du journal L'Union, pendant que Aimé Lebon, lui, c'est lui qui édite l'équipe sportive, tous deux journaux sortis aujourd'hui. Et le troisième mousquetaire aujourd'hui, Isidore Atialo Sassou Akolo, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour confrères au plateau et bonjour à toutes et à tous.
Merci, eh bien c'est parti. Et vous le savez, sur le coup de 12 heures après la pause, vous pourrez entrer en ligne en téléphonant sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Vous pourrez émettre tous vos avis, poser toutes les questions. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet dont nous allons débattre. Commençons par deux journées mondiales que nous rappelons. Nous sommes le 21 mars et c'est la journée mondiale de la trisomie 21, ou encore, si nous voulons en français plus facile, les enfants mongoliens. Et le thème aujourd'hui, c'est la prise en charge scolaire pour leur intégration dans la société. Nous sommes aux côtés des parents et amis des enfants souffrant de trisomie 21. L'autre journée mondiale que nous rappelons, en fait, c'est l'Union qui nous le rappelle aujourd'hui. Et à 24 heures d'intervalle, demain 22 mars, ce sera la journée mondiale de l'eau. Et pour l'Union, le Togo doit accélérer le changement pour un accès amélioré des populations à cette denrée. Eric, rebonjour.
Rebonjour, Sass. Oui, effectivement, le 22 mars de chaque année est la journée internationale de l'eau. Et donc, le thème choisi cette année pour cet événement est « Accélérer le changement ». Le changement, c'est apporter de l'eau à toutes les populations, essayer de faire en sorte que la population ne souffre plus de cette denrée et qui est très importante dans la survie même de l'humanité. Il est clair que nous avons de l'eau. Nous avons de l'eau partout, mais nous n'arrivons pas à obtenir de l'eau partout. Cela veut dire que les pouvoirs publics doivent faire des efforts énormes pour que l'eau potable, l'eau dont la population a besoin pour se nourrir, pour préparer, soit quand même disponible partout, si nous prenons le cas du Togo, sur toute l'étendue du territoire national. Malheureusement, on constate chaque année qu'il y a encore ce déficit-là. Et comment combler ce déficit? C'est vrai qu'au Togo, il y a une politique de l'eau qui est mise en place, mais encore qu'il faut se demander comment on fait que l'eau n'arrive pas à certaines populations. On dit qu'on va construire des milliers de forages, par exemple, pour la population, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore la centaine
Merci.
De forages.
Merci. Le défi reste d'actualité. Or, nous savons qu'il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'eau. Jusqu'aux Nations Unies, on en est conscient. Les Nations Unies qui ont fait de l'eau le point 6 des objectifs pour le développement durable d'ici 2030 qui dit « Garantir l'accès de tous à l'eau » et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. L'eau qui va arriver bientôt dans la localité de Matekpo, c'est dans la partie de Logou, c'est le confrère Liberté qui nous le rappelle, de l'eau potable pour les populations de Matekpo dans Logou. Et pour terminer avec l'Union qui revient sur les prévisions saisonnières avec des risques de sécheresse et d'inondations au sud du Togo, les recommandations judicieuses de l'Agence nationale de la météorologie. Aimé Le Bon, rebonjour.
Oui, j'en viens, rebonjour.
Nous savons tous, depuis le CP1, nous avons appris à l'école que il n'y a pas de vie sans eau. Les eaux, il y en a, mais il y en a pas, il y en a en potentialité, mais pas toujours. La preuve, dans certaines localités, c'est encore la croix et la bannière pour aller chercher l'eau potable. Et également avec les caprices du climat, notamment cette saison 2023, dont Dieu seul sait quelle quantité de pluie le Togo aura.
Oui, voilà toute la difficulté que nous sommes en train, enfin devant laquelle nous sommes donc depuis quelques temps. Et vous savez, quand on commence à créer des structures pour gérer quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Voyez-vous, c'est parce qu'il y a problème qu'on dit, bon, ok, on va d'abord commencer par la journée internationale, et puis chaque pays essaye donc de voir quel problème il a précisément, et on crée des structures pour gérer cela. Pour le cas du Togo, encore pas tant, vous savez, ben, c'est vrai, Eric le disait tout à l'heure, il y a de l'eau partout.
En potentialité.
Oui, oui, il y a de l'eau partout, mais, le problème, c'est l'accessibilité justement à cette eau. C'est l'eau potable, en fait, dont on parle. Alors, la desserte d'eau est assez difficile pour toutes les populations. Et vous savez qu'il y a de cela quelques semaines, même dans la région de la Kara, c'était difficile justement d'avoir accès à l'eau. Oui. Bon, on a essayé donc de colmater les brèches pour tenter de juguler le mal, pour tenter donc de résoudre le problème. On est en train, mais ce n'est pas encore ça. quand une population a eu des difficultés d'eau aujourd'hui, c'est que quelque part, soit il y a eu peut-être une mauvaise gestion de la chose, ou bien il n'y a pas eu suffisamment la politique qu'il fallait dans le temps pour prévoir ce que ça devait être. Alors donc, si déjà on parle d'ailleurs, vous savez, quand on parle d'eau, c'est l'eau potable, mais au même moment on nous dit qu'il va y avoir inondation. C'est là où les gens se disent, mais écoutez, comment vous dites qu'il y a on prévoit de l'inondation, mais au même moment on nous dit qu'il y a manque d'eau, il y a déficit d'eau. Oui, c'est incompatible, c'est incompréhensible, je veux dire, mais il faut comprendre que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de canalisation pour gérer tout cela. Il n'y a pas une gestion saine de la chose, et c'est pour ça que à chaque fois on dit qu'on renouvelle la politique de la desserte d'eau. On espère que avec cette nouvelle politique, on va arriver réellement à résoudre tout ce qu'il y a autour de ce problème d'eau, donc pour les populations.
Donc l'eau existe potentiellement, mais il faut de la technologie, il faut de l'argent pour la rendre accessible un peu partout au Togo et dans le monde entier. Nous le faisons, Isidore. Le Togo a créé deux sociétés pour gérer l'eau. Il y a d'abord la Société du patrimoine de l'eau, et ensuite la TDE. Mmh. La TDE qui a la charge de distribuer l'eau chez nous. Or, même à Lomé ici, même dans le vieux quartier, dans le vieux Lomé comme chez toi, c'est pas toujours évident, Isidore.
C'est ça le paradoxe auquel nous sommes confrontés. Il y a des châteaux d'eau partout à Lomé, mais qui ne sont plus fonctionnels. Donc le problème de distribution de l'eau au Togo au niveau de TDE, c'est la vétusté
du
matériel. Ça fait plus de 5 ou 10 ans que ce problème-là persiste.
Et jusqu'au quartier administratif,
à
Kazef, il n'est pas évident de vous retrouver tous les jours.
Vous parlez du Kazef, allez au CHU Sivas Olympio. Mais l'eau du robinet ne sort pas. Au niveau des blocs opératoires, les gens sont obligés d'acheter pure tapou, se laver les mains lors des opérations chirurgicales.
Et ça, c'est grave.
C'est très grave. Donc, aujourd'hui, le problème se pose. Et la nappe phréatique, la mieux au Togo, c'est au niveau de Thiévier. Mais la population de Thiévier n'a pas assez à l'eau potable. Pourquoi on les appelle les bidons jaunes? Chaque jour que Dieu fait, ils sont obligés d'aller chercher.
Maintenant, en grande partie, c'est les pics de la saison sèche qui rendent encore l'eau.
Le problème persiste.
Non, je connais aussi Thiévier ici.
Oui, je n'en disconviens pas.
Souvent aussi.
Oui, je n'en disconviens pas. Nous sommes là, nous sommes des journalistes, disons les choses telles qu'elles sont. Il ne faudrait pas qu'il y ait des pics où il y a des planchers. Il faut desservir à tout moment l'eau potable, parce qu'on dit que l'eau c'est
potable.
La vie. L'eau c'est la vie.
Merci. L'occasion pour nous de saluer le directeur général de la TDE, le directeur général de la Société du patrimoine de l'eau et au-dessus le ministre en charge de l'hydraulique villageoise. Faites en sorte que le Togo puisse disposer de l'eau potable.
À propos de l'hydraulique villageoise.
Oui.
Tous les forages qu'on a eu à faire, allez-y, mais au moins peut-être sur la centaine, 10 sont encore fonctionnels ou opérationnels.
Non, je pense ce que tu disais est vraiment réel. En période de sécheresse, comme il a dit, c'est vrai que le problème se voit avec
plus d'acuité, oui.
Et donc, vous savez, l'État togolais cherche des moyens pour résoudre ce problème. On me dit, par exemple, que pour à l'horizon 2025, il faut 2,5 milliards de dollars pour résoudre le problème. C'est-à-dire qu'arriver au moins à desservir 85%
de la population,
de la population togolaise.
Ça, c'est sur les études.
Encore qu'il faut se demander où est-ce qu'on va trouver tout cet argent-là. Parce que il y a une stratégie nationale de distribution d'eau. Mais à chaque fois, chaque année, on nous fait des prévisions. On nous dit, oui, dans 2 ans, on va atteindre tel. Mais les objectifs ne sont jamais atteints. Pourquoi? Il parlait tout à l'heure de la vétusté des installations. Il faut dire les choses. Vous savez, avant la rupture de la coopération de l'Union européenne avec le Togo, c'est la coopération allemande qui fournissait le matériel au Togo pour
l'entretien
des installations et tout ça. Mais une fois qu'il y a eu rupture de coopération, tout ça là s'est arrêté.
Ah bon, c'est ça l'état togolais.
Mais maintenant, la coopération maintenant, a pris quand même depuis plusieurs
années. Non,
de
lui,
une autre
non, c'est pas une justification.
Non, ce que je suis en train d'expliquer, Eric, ça veut dire que il y a un véritable problème ce niveau.
Voilà.
C'est ce que je suis en train de soulever.
Et c'est ce que nous disons aussi.
Et je pense que
les autorités en charge de trouver les solutions idoines et rendre l'eau potable disponible partout.
Il y a des projets.
Oui.
La dernière fois, on a vu. On a vu le directeur.
Il y a des défis sur le terrain. Nous interpellons, c'est pas nous qui allons régler ça ici.
Ça, c'est des problèmes que nous soulevons pour que l'autorité nous écoute. La dernière fois, on a dit qu'il y a des projets de construction de châteaux d'eau et de forage. Mais le directeur de la TDE a fait une visite de terrain. Il s'est rendu compte que les travaux n'avançaient pas.
Ah, mais
alors,
ça devient gravissime.
Oui, à partir de ce moment, qu'il faut.
Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de suivi. C'est pas possible, ça.
C'est justement là où je voudrais en venir.
Okay.
C'est que lorsque vous remettez des travaux de construction de forage, de château d'eau à des entreprises, il faut véritablement faire un suivi.
Mais Eric, c'est nous qui allons résumer en les interpellant pour que chacun fasse ce qu'il faut.
Bon,
on va avancer. On va avancer en rappelant la célébration du 20 mars, qui est la journée internationale de la francophonie avec le français en partage. Revue de presse avec Vision d'Afrique qui en parle justement, journée internationale de la francophonie, la création culturelle francophone et sa diversité à l'honneur. L'Union également en parle avec la célébration du 20 mars, journée internationale de la francophonie, avec cette année la création culturelle francophone et sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne, sa découvrabilité. Et à l'Institut français de Lomé, hier, a eu lieu une rencontre dédiée au cinéma francophone, avec à l'honneur le cinéaste sénégalais Sembel Ousmane et le Togolais Jean Ahoto, qui nous a quittés tragiquement il n'y a pas longtemps.
Oui, suite à un accident de circulation. Donc, ce jeune cinéaste est parti comme ça avec toutes ses œuvres et donc
son talent
parce que il n'avait pas fini quand même ce qu'il pouvait donner dans ce cadre-là.
À titre posthume, on peut le faire.
Ouais. Mais là encore, il faut que des gens fassent des recherches pour trouver ce qu'il a laissé. Mm-hmm. Et donc c'est le l'Agence française de développement et l'organisation, la francophonie, le bureau régional de la francophonie, qui ont voulu quand même célébrer ces deux cinéastes-là, le Sembel Ousmane et le jeune Togolais Jean Aronto qui nous a quittés.
Merci. Nous allons terminer avec notre Kanye Alem national qui lui-même a été déjà sacré Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2003. Eh bien, Kanye Alem vient de rejoindre l'association l'ADELF, l'association qui attribue ce prix dans l'espace francophone. Kanye lui-même qui a tuté, qu'il a rejoint le jury du Grand Prix littéraire d'Afrique.
C'est un honneur pour le Togo.
Il faut espérer que Kanye Alem puisse avoir des œuvres soumise par des Togolais afin que le jury en délibère. Aimé Le Bon va soumettre
privilégier les œuvres éditées en Afrique noire.
En Afrique noire.
Bon, ce qui est sûr, c'est que nous sommes des potentiels écrivains, il y a pas de problème. Donc oui, à travers nous, on le dit, mais vous savez, donc il y a beaucoup de collègues qui écrivent aujourd'hui, et je crois que c'est encore une piste qu'on peut explorer, voir à peu près ce que ça peut donner envie. Donc à ces Togolais d'écrire encore et de faire en sorte que ils puissent rentrer justement dans ce cercle qui semble nous être fermé, parce que c'est un peu comme si la littérature togolaise bat un peu d'elle, hein, ça il faut il y a des écrivains, plutôt il y a des gens qui s'essayent, mais on ne semble pas donc les reconnaître, ils ne semblent pas
à l'international.
On travaille à basse cour.
Les Kanye Alem, les Sami Tchak et les
Kossi et Fui, tout cela, vous savez que, à part eux, timidement, les gens sortent. Ou alors, quand ils sortent, ils restent à vase clos ici, à Lomé ou au Togo. Et donc, il y a peut-être des pistes qu'il faut exploiter pour les faire connaître à l'extérieur. Je crois qu'il y a eu donc 3 œuvres qui viennent également d'être publiées en petite posthume pour au nom du professeur
Adama.
Oui, voilà. Et donc 3 livres que moi j'ai déjà eu à parcourir un tout petit peu, mais très intéressant d'ailleurs. Je dis que c'est à titre posthume parce que lui il est déjà décédé depuis, et c'est le professeur Akapo qui
Fabien.
Voilà, c'est lui qui s'en était occupé.
Qui
l'a ressuscité pratiquement. Il y a eu donc la dédicace le vendredi dernier. Et il y a un colloque d'ailleurs qui est prévu pour les 20 et 21 avril prochains, donc sur une thématique bien précise, l'identité donc africaine, créée par professeur Adama Ekoué Adama. Donc je crois que c'est des opportunités pour les jeunes également d'aller voir ce qui se passe avec ou ce qui s'est passé avec le professeur Adama, comment j'ai connu justement de son vivant, puisque j'ai fait également la FISA à l'époque, philosophie et sciences sociales appliquées, où il a été donc notre professeur de philosophie esthétique. Il a parlé de l'art, il a écrit également, il a fait beaucoup de choses sur Paul Haï. C'est des sources d'inspiration, et ça va faire en sorte que, disons, d'autres Togolais, d'autres jeunes également puissent émerger. Je rappelle que les 3 ouvrages ont été édités par l'Harmattan.
Merci. Avec émotion, ça fait plaisir de se retrouver entre des copains vieillissants de l'Université du Bénin, hein. toi aimé
le
large et Isidore Akolor,
c'est trop dit.
Nous avons fait l'Université du Bénin dans les années 80. Ce n'est pas hier.
Moi c'était en 90.
Tu es un peu notre jeune cadet. Merci.
Au-delà de la problématique de la littérature, c'est tout, je vais dire, c'est comment dire, prêtez-moi le mot, c'est toute la culture du Togo qui est en berne.
Oui.
Donc le ministère de la culture doit prendre les taureaux par les cornes,
oui,
pour pouvoir relever le défi. Nous étions des tout premiers à commencer les films urbains. Avec
les
moyens de bord, Gaglo Atina, oui, et les 3 A. Aujourd'hui, on nous a damé le pion. Il n'y a plus de production.
Nous sommes laissés damer le pion.
Ah bon, voilà. C'est toute la culture.
Oui, c'est parce qu'il y avait à l'époque Cineato.
Cineato, oui.
Qui
dirigé par Claude et Bélou.
Oui.
À l'époque.
Et puis oui, après, il y a Hans Kofi. Et tout ce qu'il y avait, donc géré cette structure.
Merci.
Nous sommes toujours les premiers.
Et après du boulot, hein.
Non, nous sommes les premiers à initier les choses, et nous sommes dépassés, devenir les dindons de la farce.
Merci. Nous continuons avec les journalistes Olivier Dubois, Ferdinand Haïté, Isidore Kouonou, qui connaissent des sorts différents, mais autour de on note les mêmes attentions, les mêmes intérêts. Le français Olivier Dubois, qui a été kidnappé à Gao, au Mali, le 8 avril 2021, est détenu depuis par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GINIM, a été libéré hier 20 mars 2023 après 701 jours de détention. C'était au Niger. Et si les horaires annoncés sont respectés, l'avion à bord duquel voyage Olivier Dubois depuis Niamey doit avoir atterri depuis 11h GMT à l'aéroport parisien de Villacoublay, où devrait l'attendre le président de la République française en personne, Emmanuel Macron. Et au Togo ici, le temps est toujours à la condamnation tous azimuts des peines infligées par la justice aux confrères Ferdinand Haïté et Isidore Akolo. Et
ouais, aujourd'hui
encore, Isidore Kourou.
Akolo, il est
encore là. S'il vous plaît. Alors aujourd'hui encore, Liberté, qui titre deux journalistes condamnés et recherchés par mandat d'arrêt. Qu'en est-il des prédateurs autour du pouvoir? Autre journal, c'est Le Bâtisseur qui écrit Togo, la presse critique traquée, ça craint grave. Des organisations de presse montent au créneau. Et autre article, condamnation des journalistes, réaction du président des FDR, Maître Paul Apevon, qui dit, citation, honte à vous qui avez participé depuis la plainte jusqu'aux condamnations à cette macabre machination, a dit Maître Apevon. Et aujourd'hui, depuis hier, j'ai lu une dépêche de l'agence Savoir News qui laisse entendre que Ferdinand Haïté et Isidore Kourou ont interjeté appel contre le jugement. Savoir News cite leur avocat et l'homme Padé. Ça doit être une bonne nouvelle parce que Isidore, le 15 mars dernier, avant le prononcé de jugement, nous avions appris que l'avocat Elon Padé s'était déconstitué. Maintenant, selon l'information de Savoir News, c'est une bonne chose si l'avocat se remet dans le jeu et au nom des confrères interjette appel.
C'est à féliciter. Si c'est possible, moi je croyais que la procédure n'est plus de mise. Une fois que vous déconstituez, c'est pas si vous pouvez encore vous reconstituer. Si c'est permis, c'est une très bonne chose à saluer. Parce que je me dis que l'avocat les a lâchés. Parce que quand vous déconstituez, qui va interjeter appel? C'est ça le problème. Bon, aujourd'hui, vivement que ce que nous donne Savoir News soit vraiment une vérité et que l'avocat puisse encore avoir intérêt à défendre nos confrères qui sont pratiquement hors du pays. Et peut-être, moi j'ai toujours jugé que bon, ce serait la bonne voie. Si au niveau de la cour d'appel, l'arrêt donne raison à nos confrères, alors là, ils peuvent encore revenir au pays.
Merci.
Sauf cela, quand on nous parle des couloirs et autres, là, je ne suis pas d'accord sur les principes de couloir. Il faut que la justice ou nos juges puissent dire le droit.
Merci.
Et nous rassurer.
Rappelons que c'est en première instance que les confrères ont été condamnés, mais au-dessus de la première instance, il y a la cour d'appel et au sommet, la cour suprême. Donc il faut que nous apprenions à avoir un minimum de confiance dans nos institutions, à éprouver les institutions pour savoir jusqu'où le droit sera dit. Mais d'ici là, revenons à la sortie unanime des organisations de presse qui ont sorti un communiqué daté du 16 mars où toutes ces organisations condamnent les peines infligées à nos confrères. Mais c'est la chute qui est plus intéressante. Quand ces organisations entament un plaidoyer pour demander la relecture de la loi. La réécriture de la loi, c'est ce que l'Union nous rappelle. La presse togolaise veut faire relire la loi. RSF dit de ne pas exécuter le mandat d'arrêt.
Attention. Rétifions les choses.
Non, je cite.
Peut-être une omission. Quand on parle de relecture, ça veut dire que tout le code sera réélu. Nous demandons seulement la réécriture de deux articles. notamment l'article 3 alinéa 2,
ouais,
qui fait que les réseaux sociaux ne sont pas considérés ou pris en compte par le code de la presse.
Oui.
Et l'article 156 qui pousse les journalistes qui font usage de ces réseaux sociaux au cas où il y aura délit de presse, et que ce soit le code pénal.
En fait, nous disons la même chose. En fait, nous demandons la réécriture de la loi, notamment en ces articles que Isidore vient
de... Oui, c'est très important. Et aujourd'hui, nous avons une personne ressource au plateau.
Ouais, nous avons. Moi, j'ai trois personnes ressources.
Non, justement. Une personne ressource.
Oui, justement.
Vous savez pourquoi je parle.
Oui, je sais.
Moi, parce que ce procès nous avait été collé, que c'est nous étions des architectes de ce code de la presse. Et Aimé Lebon était l'un des rapporteurs à Palimé.
J'allais lui donner la parole, Isidore, si okay. Tu permets. Eh bien, Aimé Lebon, je rappelle que tu fus président de l'OTM au moment de l'adoption de cette loi. Ça, oui.
Ce que Isidore a dit par rapport à la réécriture et à la relecture de ce code-là,
oui,
c'est que lorsqu'on touche un article, ça peut avoir des incidences
sur
d'autres articles.
Oui.
En ce moment-là, ce n'est pas seulement réécrire ces deux articles-là. Là, il faut relire totalement. Parce que quand on parle de délit de presse à un certain moment, il faut connaître les sanctions. Il faut connaître les incidences en même temps sur d'autres articles. C'est tout ce que
je veux dire.
Donc, la loi avait été adoptée. Tu en sais quelque chose. Maintenant, la polémique a toujours duré jusqu'à cette affaire qui défrait la chronique. Maintenant, à l'unanimité, toutes les organisations de presse demandent la réécriture ou la relecture de la loi.
Ben, dans tous les cas, la réécriture viendra de la relecture.
Voilà.
Non, mais écoutez, nous parlons français, en
oui.
fait. Alors, on ne peut pas réécrire sans avoir lu ou relu. Donc, les deux ont raison, en fait. Que ce soit Eric qui dise « on va réélire », ou que ce soit donc mon frère René Akolo qui dise « on va réécrire ». Oui, on va réécrire ces articles-là qui sont indexés. Mais sûrement, ça va avoir certaines incidences, il faudra relire. Ou plutôt, de la relecture viendra donc cette réécriture-là. Alors, ça, si vous avez posé un problème, c'est vrai que au moment où... D'abord, il faut peut-être rectifier question. Nous n'avions pas voté. Parce que ce n'est pas aux organisations de presse de voter. Le vote du code, c'était à l'Assemblée. Nous avons participé, si vous voulez,
à
l'adoption du projet. Et M. Akoloa est encore ici, président de,
PPT.
Il est encore là. Il sait où... Dieu seul sait comment on s'est débattu pour que justement cette disposition soit modifiée, mais nous n'avons pas été écoutés. Nous n'avons pas été, et on est allé même jusqu'à nous dire que même si nous changeons ça ici, quand ça va aller au gouvernement, on va remettre ça parce que c'est ça ce qu'on veut. À un moment donné, on était justement obligé de nous plier à cela, tout en disant que nous ne sommes pas d'accord, mais bon, ok, nous, déjà en ce moment, nous disions, ok. On va en appeler donc à la relecture. C'est ce que nous avions dit.
Oui.
Qu'au moment venu, on va aller même à l'Assemblée pour poser nos problèmes clairement. Mais on ne nous avait même pas donné l'opportunité, la possibilité
d'aller
à la commission des lois, pour poser nos problèmes. Voilà comment les choses se sont passées. Les gens, peut-être, ont fait des interprétations, peut-être erronées. Vous êtes allé accepter. Ce n'est pas une question d'accepter. Nous avons adopté les choses avec réserve, en fait. Voilà, c'est le point sur lequel nous avons porté des réserves, c'était ça. Et, bon, voilà, maintenant, ça pose un problème avec, justement, nos confrères qui sont introuvables, justement, avec cette situation, et pire encore, qui sont condamnés. Voyez-vous, c'est la situation que nous ne voulions pas. Que, c'est un peu comme on est en train de regresser. Parce qu'en réalité, nous avons déjà eu acquis... Voilà. La dépénalisation depuis 2004 de la presse, des délits de presse, bien entendu. Et que il faut tout faire pour protéger justement cet acquis. Mais c'est vrai que ça n'avait pas prospéré. Et nous sommes aujourd'hui en face d'une situation. Et c'est de droit que les organisations de presse qui se sont réunies justement pour publier, comment dire, cet appel ou plutôt ce communiqué, hein, et demandent maintenant que le gouvernement reprenne justement la situation, c'est-à-dire donc le code, et qu'on aille à la réécriture en partant de la relecture. Parce que c'est effectivement ça là qui peut résoudre notre problème aujourd'hui. Il ne faudrait pas que nous arrivions à régresser par rapport à la protection de la liberté de presse au Togo.
Ce que je voulais ajouter, et à Palimé, quand on avait posé le problème, et au fait, l'innovation du nouveau code, c'est de prendre en compte les médias en ligne,
oui,
le numérique,
oui, justement.
Donc,
parce qu'il n'y avait pas ça dans
l'ancien code.
Dans l'ancien code.
Bon, maintenant,
il fallait arrimer.
La HAC dit qu'elle n'a pas la possibilité de faire le monitoring des réseaux sociaux. C'est pourquoi il faut écarter du champ d'application du code de la presse les réseaux sociaux, notamment ceux qu'ils ont à décliner. Et vous trouverez ça dans l'article 5. Quand on définit dans l'article 5 ce qu'ils appellent par réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un débat universitaire. Ce n'est pas encore tranché. Qu'est-ce qu'on peut appeler réseaux sociaux ou réseaux sociaux ou
médias sociaux?
Il y a aussi ce problème.
Il y a ce problème
universitaire
entre médias sociaux et réseaux sociaux.
Donc, d'actualité.
Donc maintenant, c'est parce que la RAC dit qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas monitorer cette chose-là. Donc, c'est écarté de ça. Mais n'empêche que nous, au moins les journalistes, qui faisons usage de cet outil novateur, parce que nous sommes à l'ère du numérique, on ne peut pas nous empêcher aux journalistes togolais d'en faire usage ou d'en faire extension de leurs médias traditionnels.
Que les organisateurs soumettre des propositions.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire.
De la relecture.
Que qu'on ne s'arrête pas à se communiquer,
oui,
mais qu'il y ait des démarches
justement
qui soient faites donc à l'endroit du gouvernement,
oui,
pour proposer donc
quelque
chose, un cadre aussi qui puisse permettre à ce qu'on puisse vraiment aller dans ce sens en fait.
Parlant de relecture, que ça se concerne sur les dispositions relatives à l'usage des réseaux sociaux. Parce que si nous ne faisons pas attention, quand nous parlons de relecture, c'est tout ce qui serait. C'est tout le
côté
qui
arrive. En temps opportun, les organisations seront convenues des propositions. Parce qu'il s'agirait maintenant de convaincre aussi bien les membres du gouvernement que les députés de la pertinence des améliorations que nous voulons.
C'est ça.
Je nous fais confiance pour deux raisons. Oui, là.
Aujourd'hui, nous n'allons pas de descendre au niveau du classement Dream Business, ou plutôt Reporters sans frontières, parce que ça fait partie des indicateurs.
Oui, non, même pour le MCC.
Le MCC.
Tout ça là, c'est ce qui nous importe maintenant, c'est de mener les démarches.
C'est de créer les conditions.
L'appel que les confrères viennent d'interjeter puisse prospérer rapidement.
Oui.
Ça, c'est la justice. Et de l'autre côté, on va faire le plaidoyer allant dans le sens de la réécriture de la loi pour prendre en compte nos préoccupations.
Et parlant donc du fait qu'on ait fait, qu'on ait interjeté appel, justement, je voudrais dire que tant qu'il y a encore possibilité de recours, il faut exploiter toutes les voies.
Merci beaucoup.
Et non seulement ça.
Eric,
moi, je me dis que c'est une opportunité pour nos deux ministres de retirer finalement
ce n'est plus possible,
mais au moins qu'ils fassent quelque chose vis-à-vis de la cour d'appel.
Il ne peut plus rien.
Je suis désolé,
la décision c'est la chose jugée s'impose.
Oui,
merci, que nous revenions au débat.
Ce qui est important pour nous, c'est l'annulation de cette
l'autorité de la chose jugée.
Oui.
Merci. Dans quelques jours, ce sera le 24 ou 25, les 3e et 4e journées qualificatives pour la CAN de Côte d'Ivoire 2023. Mais nous jouons vendredi ou samedi?
Vendredi
24 mars, ce sera à Marrakech, au Maroc. Nos éperviers vont en découdre avec les étalons du Burkina Faso. Depuis hier circulent un appel de la ministre Bessie Kamman, chef des sports, qui nous appelle à un sursaut patriotique et à une union sacrée autour des éperviers. C'est le sujet phare, à la manchette même de l'équipe sportive. Et mais ton journal écrit, double confrontation Togo-Burkina Faso, sursaut d'orgueil, écris-tu aussi, parce que de ces deux matchs dépendra la suite du parcours des éperviers dans ces éliminatoires, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, vous savez que le Togo a foutu plutôt les éperviers sont déjà dos au mur, à partir du moment où après deux matchs, ils sont donc à un seul point, un nul encombrant à domicile contre les Swatini, et puis une défaite, bien sûr, contre le Cap Vert, toujours au Maroc. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui ont choisi comme terre d'accueil le Maroc, notamment le Cap Vert et le Burkina Faso. C'est d'ailleurs ce pourquoi le Togo s'est retrouvé là-bas, enfin à Marrakech depuis samedi déjà, pour jouer une semaine plus tard ce match de la double confrontation, ce premier match de la double confrontation avec les étalons du Burkina Faso. Les étalons qui sont aujourd'hui, enfin l'ogre du groupe, hein, ça il faut pas se le cacher, c'est deux matchs, deux victoires, et les étalons déjà prouvés depuis quelques années sur le continent, qui sont présents à la dernière CAN, ils ont été quatrième, vous comprenez, donc ils sont allés donc à demi-finale, qu'ils ont perdu, et puis la petite finale qu'ils avaient perdue également. Alors contre le Togo, les éperviers qui n'étaient même pas donc à la dernière CAN, vous comprenez que depuis plus de 5 années, le Togo est en train de balbutier son football. On est parti donc d'un technicien français qui s'appelait donc Claude Leroy, qui a passé 5 années où les choses n'ont pas évolué, et finalement c'est Paulo Duarte, le portugais, qui a pris la reine de cette équipe depuis quelques un an déjà, et là c'est vrai que dès son arrivée il y avait eu un semblant de reconstruction qui avait commencé avec les derniers matchs des éliminatoires mondiales, et puis là où on l'attendait le plus, c'était justement pour les éliminatoires CAN 2023, où on s'est dit à quelques encablures du Togo, les éperviers ne peuvent pas se retrouver donc à Abidjan pour cette CAN là. Mais après deux journées, nous sommes dos au mur, on est dernier du groupe, et on attend tout de cette double confrontation là contre le Burkina Faso. Oui, Madame le ministre a fait une sortie médiatique donc pour en appeler à toute la population de se mobiliser, justement d'abord pour ce match de 24 où on doit être en communion d'esprit, puisque nous n'y serons pas, mais il y a quand même la communauté togolaise qui se trouve donc au Maroc, qui va faire le déplacement, et il fallait justement certaines confiances. Le Togo manque de confiance, enfin, les joueurs je veux dire manquent de confiance en réalité, ils manquent de confiance, et il faut quand même reconnaître aussi que l'effectif du Togo aujourd'hui n'est plus l'effectif d'hier. On n'a plus, disons, les Adebayor, on n'a plus les Koubadia Kades, c'est déjà vieux. Agassa, tout ça, là, c'est déjà passé. Il y a une nouvelle génération. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu faire une suivi ou une pépinière qui devrait monter. Et donc, il y a une césure. Et aujourd'hui, on a du mal donc à colmater les brèches. Bon, alors, quels que soient les joueurs qu'on a appelés, vous savez que dans la préconvocation, il y avait eu 46 joueurs qui avaient été préconvoqués, et c'est dans cette préconvocation qu'on a choisi finalement 26, vous imaginez, pour cette double confrontation. Quels que soient les joueurs qui ont été appelés, il faudrait qu'il y ait un minimum de confiance qui existe entre eux, et que le coach, le sélectionneur, puisse avoir le discours qu'il faut, parce que quand nous disons qu'il y a un manque de confiance, ça veut dire que déjà, entre eux-mêmes, c'est de petits problèmes, mais qu'il faut rapidement réussir à régler, et donc tout part du mental. Sur le terrain, le Burkina part avec la faveur des pronostics, c'est vrai. Maintenant, vous savez qu'en football, la réalité sur le papier n'est pas toujours la même sur le terrain, et que le Togo peut effectivement, quand on est galvanisé, rappelez-vous les années 2004-2005, ce n'est pas qu'on était meilleur en Afrique. Dans notre groupe à l'époque, il y avait le Mali, il y avait le Sénégal. C'est les deux qui étaient.
Et le Congo Brazza.
Le Congo Brazza, bon, on pouvait dire que non, que on était presque au même niveau. Mais le Sénégal et le Mali
dépassait le Togo largement. Rappelez-vous que le Sénégal venait de la Coupe du Monde 2002 avec cette victoire sur l'équipe de France. Vous vous rappelez de tout cela, donc, auréolé de tous ces exploits-là, mais le Togo a pu damer le pion donc, au Sénégal, ici à Lomé, et aller réaliser un nul héroïque à Dakar. Et on est allé même jusqu'à battre les aigles du Mali à Bamako. Mais ce n'était pas que nous avions une équipe extraordinaire, mais c'est parce qu'il y avait une confiance, c'est parce qu'il y avait une osmose, c'est parce qu'il y avait une entente entre les joueurs et le public sportif. Également. Donc tout cela, c'est ce qu'il faudra cultiver aujourd'hui, c'est ce que demande Madame le ministre, c'est ce que demande le président de la Fédération Togolaise de football pour que justement on puisse galvaniser ces joueurs, on puisse motiver ces joueurs-là à aller loin.
Dans ce sens, les titres, les appels ne manquent pas. Hein. L'équipe sportive qui parle de l'impérative survie,
oui.
Sursaut d'orgueil, la ministre parle de l'union sacrée, de sursaut patriotique. Ça, il y en a, mais il va falloir quand même compter sur les joueurs. Alors, les convocations ont été faites et deux journaux nous les font découvrir, notamment Mirror Info, qui nous parle des performances des éperviers dans leur club le week-end dernier. Titre un peu similaire de l'équipe sportive également, de Ilas Bebou jusqu'à Josué Doké. Vous passez en revue quelques noms des éperviers qui pourraient être alignés sur la pelouse vendredi.
Oui, on espère que l'entraîneur, ou plutôt le sélectionneur, aura, disons, le flair qu'il fallait pour mettre les joueurs qu'il faut sur le terrain, qui sont capables, justement, d'aller au charbon. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, encore une fois, sur le papier, les étalons, on les vend en poupe. Eh bien, ils sont en roue libre. Maintenant, c'est au Togo, c'est aux éperviers de démontrer qu'ils sont capables justement de confondre donc cette équipe Bobo-Kinabé en opposant un jeu assez léché, enfin assez plaisant. Et je sais, je connais les Togolais, hein, vous savez, même si à la fin on perd, mais que les joueurs ont bien évolué, ont bien progressé dans le jeu, le Togolais aime ça. Le Togolais aime ça. Au moins 4 points, c'est-à-dire. Peut-être faire un nul là-bas et venir à Lomé le 28 prochain donc pour une victoire, ça va faire 4 points, à défaut d'avoir les 6 points, c'est-à-dire les deux victoires. Deux victoires, ça nous ferait 6 points pour avoir 7 points finalement et dépasser le Burkina Faso. Je dis que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible non plus.
Impossible. Eh bien, Isidore, disons, bonne chance à nos éperviers.
Ah, je ne le dirai pas. On souhaite bonne chance. Mais je me pose la question si les carottes ne sont pas déjà cuites pour nos éperviers.
Non.
Non, et permet que je puisse évoluer. Et toujours, et depuis que le français Claude Roy était arrivé, on a carrément décimé l'équipe nationale togolaise.
On sait qu'on est donc en phase de reconstruction aujourd'hui.
En phase de reconstruction,
il faut que les signes
soient visibles. Vous qui êtes spécialiste en la matière, vous pouvez nous donner l'ossature, au moins, des joueurs. Avant, quand le Togo a un match, on connaît au moins les 11 entrants ou ne serait-ce que les 8. Aujourd'hui, mais tout est décimé. Et avec du bisbir autour des sélections des joueurs. Ce n'est pas que le Togo manque des joueurs. C'est un problème de management. C'est un problème de management. Il faut arriver à casser cette dynamique de pouvoir placer tel joueur au lieu de tel. On a des joueurs qu'on connaît qui peuvent aller au charbon, comme vous le dites, mais qui sont sélectionnés, mais restent sur les bancs.
Oui,
mais à quoi bon? On transforme un attaquant en défenseur, un défenseur en attaquant. Mais sur ces choses-là, moi, je ne me retrouve pas.
Merci. On verra peut-être Paolo Duarte.
Ça, je voudrais juste ajouter que pour les motivations et autres, je trouve que l'État togolais a pris quand même une disposition particulière pour permettre donc à cette équipe de revenir assez vite parce que s'il faut attendre un vol commercial pour revenir, ça va être difficile puisque le match se joue dans l'intervalle de 3-4 jours. on joue l'aller le vendredi 24 et le mardi 28, on joue le retour à Lomé. Et donc, l'État togolais a mis à disposition donc de cette équipe quand même l'avion présidentiel pour pouvoir les ramener juste après le match, les mettre en tout cas dans un confort qui leur permette quand même d'avoir une certaine sérénité dans la tête pour y travailler comme cela se doit.
C'est toute une bonne chose, mais le management, c'est très important.
Oui, on est d'accord, on est tous d'accord, le management et tout, mais il faut que les joueurs aussi aillent au charbon. Il faut que les joueurs se disent, nous venons mouiller le maillot et c'est le drapeau national que nous devons porter haut.
Ça, c'est à l'époque de Kaolo.
Ce qui se passe aujourd'hui, très sincèrement, ça, nous tous, nous connaissons la difficulté de notre football. Mais maintenant, il faut un esprit nouveau qui accompagne ces éperviers-là. En réalité, c'est qu'on a perdu des repères. Ces jeunes-là n'ont pas de repères. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé avec Claude Leroy. Agassa était coach des gardiens. Là, Agassa peut dire quelque chose à ses gardiens. Mais pour les attaquants, pour les défenseurs, pour les milieux, les autres, ils sont où? Donc tout ça, aujourd'hui, c'est tout ce qu'il faut remettre en place.
C'est pour ça que, mon cher René Akolo dit que donc il y a un peu de management. Je crois qu'il a raison sur plan, parce que quand on prend le Sénégal qui est en train de réussir, de réussir aujourd'hui, c'est que tous les anciens sont autour pour encadrer
les jeunes.
Et vous voyez maintenant la progression du Sénégal qui a gagné la CAN, qui a gagné le CHAN, qui a gagné la CAN des U20 et qui a gagné
U17 aussi,
le beach soccer. Vous voyez sur le compte tout ce qu'il y a comme coupe là, le Sénégal est en train de rafler. Parce que justement à la base, on a pu travailler à la base. Le problème du Togo, c'est que justement on manque cruellement de travail à la base. Et la base, c'est quoi? Ce sont les académies, ce sont les clubs qui doivent mieux s'organiser. Je vous ai dit ici que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul club au Togo. Il y a des équipes, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de club. Il y a différence entre une équipe et un club. Alors donc, nous avons un problème énorme par rapport à cela. Et faire en sorte que le management dont parle Akolo soit un truc qui doit mieux mûrir pour que certains anciens joueurs puissent se retrouver autour de cette équipe-là pour donner des conseils, pour orienter. C'est ce que fait Aliou Cissé, justement, avec pas mal de joueurs autour de lui, pas mal d'anciens joueurs autour de lui. C'est ce que fait Eto'o au Cameroun. C'est ce que fait... Vous ne pouvez pas faire. On dit souvent en Afrique, on fait quoi? On tisse la nouvelle corde à l'ancienne. Voilà à peu près.
Et également, donc, au sommet de l'État, il faut qu'on commence également à tirer la fin de ces fameux sorciers blancs qui ne le sont que de nom commencer à avoir une confiance avec les nationaux qui ont fait
Depuis quelques temps, le Togo n'a plus eu de problème de prime, vous savez. Ça veut dire qu'à chaque fois, tout est dit, les motivations sont là. Et nous sommes en train même de dire non, mais écoute, depuis quelque temps, on tirait sur la sonnette d'alarme. Mais on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi, quand les joueurs arrivent, on leur dit qu'on paye les primes de campement. Ça n'existe nulle part. Et ça dit que vous gagnez ou pas, vous avez d'abord une prime de campement que vous recevez, n'est-ce pas, grassement ou gracieusement. Et maintenant, vous allez jouer. Si vous gagnez, vous avez ceci. Si vous avez match nul, c'est ça. Mais déjà, quand on vous dit non... Et alors que depuis quelques temps, on appelait même à des primes d'objectifs.
Voilà.
C'est-à-dire que vous vous qualifiez, voici ce que vous gagnez. Quand vous allez donc à une phase finale, au fur et à mesure que vous évoluez par étapes, on vous fixe donc votre prime. C'est un peu comme cela que ça se passe ailleurs et les gens sont plus motivés à faire le travail.
Merci, merci Eric, merci Isidore. On va quand même terminer avec le bon voisinage et la coopération Sud-Sud, avec ce que nous savons depuis hier, à savoir Bazoum chez Fort Nyasimbe depuis hier. C'est ce que nous rappelle le Medium. Autre journal, Miroir Info qui écrit « Diplomatie Togo-Niger, Mohamed Bazoum du Niger en visite de coopération chez Fort Nyansingé, autre journal.
De coopération, oui.
Non, je cite, oui, Miroir Info, Bazoum en vise de coopération chez Fort Nyansingé. Vision d'Afrique lui parle de l'axe Lomé-Niamey, plus que jamais en marche. Et l'Union également qui consacre cet article. Bazoum chez Fort Nyansingé pour un séjour de 48 heures à forte teneur économique, commerciale et sécuritaire. Aussitôt arrivé, Bazoum a commencé à avoir des entretiens avec Fort Nyansingé entre eux et puis élargi à leur entourage. Et puis c'est des visites de terrain au port de Lomé, notamment Lomé Container Terminal. Ce matin, il devrait être à la maison du Hajj et puis se déplacer à Blita pour l'inauguration des travaux de la deuxième phase de la centrale solaire photovoltaïque et quitter le Togo à la mi-journée. Eric ?
Oui, justement, c'est une visite, comme on l'a dit, à forte connotation économique, commerciale et sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons tous le même problème, surtout sécuritaire, où le Niger est un terrain d'expérimentation pour ces djihadistes-là qui tuent à tout vent tous les jours et impunément. Et donc, les deux chefs d'État vont beaucoup discuter de cette situation que la sous-région vit. Sur le plan commercial, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo dessert beaucoup le Niger, Niger faisant partie des pays de l'Interland. Et donc, hier, il y a eu l'inauguration de la deuxième phase de construction de port à conteneurs. La société LCT, Lomé Terminal. Et donc, après, les deux chefs d'État vont se retrouver ce matin pour l'inauguration également de la deuxième phase de l'implantation de la centrale photovoltaïque de Blita, hein, une centrale qui a été financée par les fonds coétiens. Et donc, après cela, les deux chefs d'État vont certainement revenir à Lomé pour que le président Bazoum soit libéré.
J'ai plutôt pu entendre qu'il prendra son vol à partir de Niamtougou. Donc après Blita, hein, il pourra continuer à Blita à Niamtougou pour prendre son vol. Eh bien, Isidore Akolo, Mohamed Bazoum, il est arrivé au pouvoir démocratiquement il y a bientôt un an et il ne manque pas d'activité. Là, nous parlions tantôt de la libération du confrère Olivier Dubois. Le Niger en est certainement pour beaucoup de choses. Il y a la semaine dernière, ou bien il y a quelques jours, Bazoum était au Niger. Aujourd'hui, il était au Bénin. Voilà. Il était au Bénin aux côtés de Talon. Aujourd'hui, il est chez nous. Ça montre toute la vitalité de son action sous-régionale.
Ah oui, vivement que ça puisse arriver. Moi, je m'inquiète sur la coïncidence du calendrier. Du calendrier au point que ce soit au lendemain de la libération de notre confrère Olivier Dubois.
Non, le jour même, il est arrivé à Lomé hier.
Le jour même. Et, bon, moi, ça me pose un petit problème, un petit souci.
Lequel?
Est-ce que ce n'est pas pour habiller d'autres choses qu'on nous parle de rencontres ou visites économiques et que ce soit passé par le Bénin et revenu au Togo, est-ce que ce n'est pas une alliance qui est en train d'être dessinée et en faveur de la présence française dans la sous-région? N'oublions pas que le Mali, la Guinée et le Burkina sont en train de sceller une alliance.
Ah oui?
Une alliance contre la présence française dans la sous-région. Bon, voilà des réflexions à haute voix que je suis en train de faire pour qu'on n'habille pas cette visite d'autre chose, alors que
une derrière, réflexion à haute voix.
Ah, oui, oui.
Une réflexion, c'est bien. Des suppositions, mais nous en tenons aux éléments de langage que mettent à disposition le gouvernement togolais.
Oui, ça c'est vrai. Officiellement, c'est ce que nous savons. Mais on n'empêche pas non plus un journaliste donc de faire, disons, certaines analyses. C'est ce qu'il est en train de
à
faire.
À haute voix.
Bon, sauf qu'il dit qu'il réfléchit à haute voix.
À haute et intelligible voix.
Mais oui, c'est des analyses qu'il est en train de faire. Mais nous en tenons également officiellement ce qu'on nous dit. Oui, il y a une rencontre. Je crois que le point culminant, c'est surtout de savoir qu'il y a un problème sécuritaire qui se pose dans la région. Je crois que c'est parti de là. Le Niger étant imprégné dans la chose depuis des années, le Togo qui est en train de vivre cette situation d'une manière ou d'une autre se dit, écoutez, on peut justement se retrouver. Vous savez que si Mohamed Bazoum est allé à Cotonou, c'est également pour discuter avec Talon par rapport à ce problème sécuritaire qui est en train de gangréner également le Bénin. Alors donc, c'est possible. Il faut partager également les stratégies de lutte. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est hautement secret. On ne peut pas dire autre chose. Maintenant, c'est vrai que quand on se retrouve entre chefs d'État, il y a toujours le plan économique qu'il ne faut jamais oublier. Le Togo consiste à un port en eau profonde et puis qui est exploité par, les pays de l'Interland. Voyez-vous, donc c'est normal qu'il y ait également ce genre de discussion. Je crois que Mohamed Bazoum est venu avec une forte délégation d'opérateurs économiques, selon ce qu'on on sait également. Donc il faut s'en tenir à cette communication officielle, mais il n'empêche qu'au-delà, il puisse avoir un agenda caché.
Merci, d'autant plus que au cours des entretiens, officiellement, on ne dit jamais les points, les sujets dont les deux chefs d'État discutent. C'est un peu comme un secret d'État.
Oui.
Eh bien, il est 12 heures passées de 4 minutes. À partir de cet instant, nous ouvrons les antennes pour les auditeurs. Je rappelle les deux numéros, le 22-21-33-74 ou le 91-36-63-75. Nous avons débattu de suffisamment de sujets pour que l'un ou l'autre vous intéresse. Oui, la technique, Manon, déjà le premier de la classe. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Johannes.
Oui, allez-y.
Avant toute chose, j'aimerais faire cette remarque-là. Presque chaque mardi, Eric Johnson a l'habitude de nous dire à nous les auditeurs que nous nous cachons derrière notre téléphone pour appeler pour dire n'importe quoi. Et j'aimerais dire que aussi bien, il faut qu'il y ait du respect envers les auditeurs pour que les auditeurs aussi aient du respect envers ceux qui viennent faire des analyses dans le studio. Donc, ces propos, ce n'est pas la première fois. Et le mardi prochain, passé plus tôt, à la fin de l'émission, souvent c'est à la fin de l'émission qu'il le dit. Et moi, je m'étonne que vous sachiez. Bon, c'est vrai.
Johannes, est-ce qu'on peut faire l'économie de polémique inutile et aller directement au débat constructif?
Ce n'est pas une polémique.
Si, Johannes, ce n'est pas le débat, ça, s'il vous plaît.
C'est une remarque que j'aimerais faire.
Merci. Maintenant, est-ce que vous pouvez aller au débat lui-même?
Le deuxième point, concernant le football. Dans notre pays, il n'y a pas que le football. C'est vrai, c'est le football que nous aimons tous. Mais le football a été en sourdine pendant plusieurs années. Qu'est-ce que la ministre des Sports a fait pour développer les autres sports?
Merci, Johannes. Malheureusement, nous n'avons pas la ministre à nos côtés pour lui adresser votre question. Est-ce qu'on peut passer au suivant, s'il vous plaît? Il y a d'autres aussi qui attendent.
Mais on peut plus lui répondre après. Il y a pas de problème.
Oui,
Allô?
Oui, juste pour dire
justement aimé.
Oui, juste pour dire que ce n'est pas pour rien que maintenant le ministre des Sports a initié depuis 2 ans la reprise des championnats scolaires et universitaires. Et dans ces championnats-là, il n'y a pas que le football. Il y a donc le handball, il y a le basket, il y a l'athlétisme, il y a le volley, etc. Tout cela, donc, ok, ce n'est pas concentré. Vous savez, pour le moment, c'est le football qui reste le sport dominateur. Mais on s'emploie quand même à donner beaucoup plus, enfin, un peu plus de visibilité également à d'autres disciplines. Et je crois que la dame le fait.
Merci. Le deuxième auditeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, c'est monsieur.
Monsieur Kwade.
Kwade, nous écoutons.
Oui, j'aimerais poser une question à notre... C'est mon papa, je l'appelle souvent papa, Aimé Lebon.
Mm-hmm.
Et j'aimerais que tu me répondes comme un journaliste sportif, pas comme un Togolais.
Non, posez la question, il verra bien.
Est-ce qu'il croit à la qualification des éperviers?
Merci. Est-ce que Aimé Lebon croit à la qualification des éperviers pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire? Notez la question. Nous allons revenir le temps que de prendre l'auditeur suivant. Bonjour.
Oui, allô, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Kwami à l'appareil.
Kwami.
Oui.
De quel quartier, s'il vous plaît?
Depuis Kogan.
Kwami, depuis Kogan. Ok, allez-y.
Okay. Oui, s'il vous plaît, je voulais revenir sur un sujet qui nous importe tous.
Oui.
Celui des journalistes interpellés la fois passée qui n'ont pas pu répondre.
Oui.
J'aimerais que les autres journalistes qui sont sur place y pensent et sachent que en éveillant dit non pas non vieux état les obéis.
Oui.
Secondo, je passe par ceci pour demander si est-ce que exceptionnellement il y a un fonds qui est débloqué pour le sport au Togo par année.
Merci chaque année, beaucoup.
Est-ce qu'il y a un fonds qui est débloqué pour le sport au Togo? Parce que il y a tout qui nous désunit, mais au moins le sport nous unit. Ils n'ont qu'à passer à ça, parce que au moins seul le sport, ça nous donne le sourire.
Merci. Pour le premier point, Kwami, je peux vous assurer qu'il y a vraiment un front très uni entre nous de la presse. Depuis que cette affaire a commencé, il n'y a pas de jour que nous n'en parlions ici, que les confrères n'écrivent pas, ou bien que ça s'anime sur d'autres canaux. Comptez sur nous, nous savons que nous avons besoin d'être solidaires dans cette affaire.
C'est ça, parce que nous aussi, on a des enfants qui fréquentent maintenant, qui ont de l'espoir, qui veulent aussi devenir journalistes comme vous.
Mais là où nous vous attendons, hein, est-ce que vous-même, le public, est-ce que vous nous soutenez la presse? Est-ce que vous nous soutenez?
Moi, effectivement, je soutiens la presse.
Merci. Merci pour vous. Le suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
C'est Ali.
Ali.
Bravo le plateau.
Oui, allez-y.
Aimé Lebon, toujours égal à lui-même.
Merci.
Oui. Puisque si on parle de foot au Togo, Aimé Blaise Elzo, sincèrement, aujourd'hui, on ne le reconnaît pas encore, mais c'est des piliers. Bon, Akolo, bravo. Maintenant, revenons à la visite du président qui est avec nous. Pourquoi on ne les amène pas dans les endroits qui n'arrange pas le pays? C'est parce qu'on veut toujours présenter le Togo sous plusieurs aspects. Au port, c'est terminal à conteneurs et l'ensemble là qu'on va montrer. Pourquoi on ne l'amène pas à TP3? Or, tout l'ensemble là, chaque jour on prend l'argent, mais on n'amène jamais. C'est un danger pour nous. Revenons au niveau là où voltaïque, panneau voltaïque, la centrale voltaïque, qu'on dit qu'il va aller visiter. Vous savez quel gaffe est créé là-bas? Ça, si j'emprunte l'argent chez toi, je viens réaliser quelque chose chez moi, je mets ton nom sur ça, c'est ce qui est fait là-bas. Dire que c'est un honneur au fond qui a contribué. Or, c'est une dette que nous payons. Maintenant, on met le nom du bailleur. Donc, officiellement, nous, bon, en tout cas, il serait intéressant de revoir tout ce qui est fait là-bas sur la côté administration. Sinon, ça là va revenir carrément au bail. S'il vous plaît.
Oui.
Les amis qui s'amusent avec le foot n'ont qu'à savoir que le foot unit le Togolais. Mais tant ils vont continuer par, c'est-à-dire, stresser le Togolais du côté du foot aussi, ce serait dangereux. Merci.
Je vous en prie. Le suivant déjà, Ali?
Oui, déjà Ali, monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui, monsieur Sass. Félicitations pour tout le travail que vous faites tous les jours.
Merci.
Et je vais aborder par le premier sujet, c'est-à-dire l'eau potable. Vraiment, ce sujet-là, ça fait des années. Et nous souffrons, nous continuons de souffrir. Je vais parler de mon milieu. Moi, je viens de Safi.
De Safi, hein?
Oui.
Dans le Yato.
Dans le Yato.
Mm-hmm.
Oh, ça fait mal. Nos mamans, nos soeurs doivent se lever à 1h, 2h du matin pour pouvoir trouver de l'eau.
Encore aujourd'hui?
Mais aujourd'hui même, c'est ça.
Mm-hmm.
Il faut se réveiller entre 23h jusqu'à 3h, 4h pour trouver un peu d'eau.
Elles vont chercher l'eau là où?
À la bonne fontaine. Parce que c'est cette période que l'eau a couru un peu.
Mm-hmm.
Dans la journée, il n'y a rien. Il n'y a que l'air qui sort. Pourtant, nous avons construit un château à Répé, à 3 km de chez moi. Je sais à quoi sert ce château qu'ils ont construit.
Mm-hmm.
Il faut que les autorités commencent par servir le peuple, servir véritablement le peuple, pas dans les discours. Nous faisons des sacs. Je vais aborder le deuxième sujet, c'est la visite du président nigérien chez nous.
Oui.
C'est une bonne chose que nos chefs d'État commencent par collaborer et développer la coopération sud-sud.
Oui.
Mais il faut que ça aille dans l'intérêt des peuples, pas pour servir l'Occident. Moi aussi, j'aimerais lier cette visite à la libération du journaliste français. C'est un événement grandiose pour la France. Et si le président du Niger n'est pas au Niger pour accueillir l'hôtel français là, il se trouve au Togo, ça veut dire qu'il y a un intérêt derrière. Il faut que nos chefs d'État travaillent beaucoup pour nos intérêts, à nous les Africains, d'abord avant de passer à l'Occident. Je vous remercie.
Merci. Pour ce que je sais, Bazoum était arrivé chez nous ici, mais son ministre des Affaires étrangères a reçu Olivier Dubois à Niamey avant que celui-ci ne prenne l'avion pour Paris ce matin. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour Stas.
Oui.
C'est Francis qui intervient.
Francis.
Oui.
C'est la première fois, si je ne m'abuse.
Plusieurs fois. Je salue mes nièces qui sont vos deux filles.
Ah.
En passant.
je comprends, Francis.
La précision est détail.
Ouais. Je salue MEP et puis je salue le patenté Johnson.
Oui.
Du Saint-Soualouse.
Mm-hmm.
Ceci dit, moi je voudrais m'appesantir sur le football togolais. Depuis la Coupe du Monde 2006, les ristournes sont restées où? Les gens avaient insulté, acculé Roch Nyasinghe, de mauvaises administrations, de mauvaises gestions financières, les ont pris, les sous sont passés où? Est-ce que ça a servi réellement au développement du football togolais? En 2013, le premier ministre Ahmed Zounou avait demandé un audit de la CAN. Où est laissé l'audit jusqu'à ce jour? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas publié? Qui a refusé de publier l'audit? En 2017, on est passé à la CAN au Gabon. Il y a eu des dilapidations d'argent. Des gens se sont achetés des voitures C5, ils roulent dedans. Il y a une disparition de 650 millions évaluée à plus de 2 milliards après. Les gens sont là, il y a l'impunité grandissante. Comment est-ce que le football togolais peut se développer? Il n'y a pas d'infrastructure sportive, il n'y a rien dans le pays. Je vous dis aujourd'hui, il y a un jeune togolais qui est en Italie, la forme de Salou Bachirou, 19 ans, patenté qui veut jouer pour le Togo, mais personne ne va vers lui. On a trouvé un autre gars, le togolais, qui est en France, 1m95. Personne ne se soucie de lui à 25 ans. Qui est, certes, qu'il est en division d'honneur, comme sont venus arriver dans ce pays-là, Ludovic Assemoissan et autres. Mais personne ne s'en soucie. On dit les gens doivent être dans telle division. Les gens étaient dans telle division avant d'aller à la Coupe du Monde. Donc, tout cela réuni, je dis qu'on a du travail, du chemin à parcourir. Si on ne fait pas comme le Sénégal, on peut toutefois continuer en le faisant comme le Sénégal et en recherchant d'autres joueurs. Mais l'impunité grandissante fait que les gens volent dans ce pays, on ne dit rien, et nous allons toujours de décrescendo en décrescendo. Merci.
Merci beaucoup, Francis. Le temps de prendre encore un auditeur pour laisser le temps aux confrères de vous répondre. Et il n'est pas encore là. Eh bien, merci. Oui, okay. Il s'annonce déjà. Oui, bonjour.
Oui, c'est vous, la dernière.
Allô?
Oui, je suis la dernière, apparemment.
C'est ici?
Oui.
Oui.
Bon, vous avez parlé de l'eau. Après 60 ans de gouvernement, on n'a pas d'eau dans la capitale jusqu'à rêver en avoir à 5 km, 10 km, quoi. Pas d'eau, on n'a pas de l'eau potable. Et puis, vous avez parlé de revoir les lois organiques du journalisme, tout ça, là. Bref, les lois de la République, ça ne pourra jamais se faire. Parce que le régime a trop duré, et puis charcute la Constitution à sa guise, et puis voilà, quoi, on n'aura rien avec ce régime. C'est pour cela qu'il faut alterner périodiquement. Et puis,
m'attendais de la part de Zi.
Oui.
La solution, c'est l'alternance pour vous.
Et même tous les Togolais, qui sont stressés, qui peinent beaucoup dans ce pays, et ils doivent savoir que ce régime aussi va passer. Tout compte fait, il va passer comme tous les régimes qui oppriment dans le monde entier. Et voilà, ils vont passer. Et pour le foot, moi, c'est ce qui m'énerve. Et voilà. Puis c'est une diversion qui est, comment on dit ça, qui, c'est une diversion des dictatures. Mmh. C'est une diversion. On vous opprime, et puis tous les ans, au prochain, on vous envoie le football pour vous divertir, pour vous rigoler. Bon, et je vais citer du coq à l'âne. Où s'en est avec la TV New World pour le mondial là. C'est fini, non? On a claqué beaucoup d'argent pour rien, alors qu'on en a besoin pour des vraies choses. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Et si... Thomas, un tout dernier auditeur, et nous allons clôturer pour laisser le temps aux confrères de répondre. Oui, bonjour. Allô? Allô, l'ami? Il est là? Il ou elle est là? Merci, merci beaucoup. Alors, Aimé,
oui.
Je prends la dernière et la deuxième question. Alors, ce match, ces deux matchs-là, est-ce que c'est de la diversion ou bien ce toi aimé, est-ce que tu crois vraiment que les Éperus vont pouvoir se qualifier pour la CAN 2023?
Je vais commencer par la dernière question que vous avez posée. Il ne s'agit pas que moi je crois ou pas, parce que ce n'est pas moi qui vais jouer en fait.
C'est pas ma question, hein, c'est l'auditeur qui te le demandait.
ce n'est pas le fait de savoir si Aimé croit en une victoire des Éperviers ou pas. Moi, j'ai dit, il faut mettre les conditions qu'ils font. J'ai analysé, j'ai fait donc une analyse qu'ils trouveront d'ailleurs dans mon journal, qu'il fallait un sursaut d'agression. Si on veut gagner, c'est dans tous les cas la condition. Il faut d'abord une certaine cohésion dans les jeux, d'accord, mais aussi et surtout la confiance, la motivation. Ça, on l'a dit. Mm-hmm. Et que sur le papier, on ne faut pas se leurrer. Le Burkina est en avance sur nous, sur tout le plan. Quand vous prenez les joueurs burkinabés, les clubs dans lesquels ils évoluent, en disent long. Les clubs dans lesquels ils évoluent en disent long. Déjà par rapport à leur carrière, par rapport à leur niveau. Voyez-vous? Alors, c'est vrai également que, au-delà de cela, il y a l'orgueil qu'on peut de défendre. Et, naturellement, entre le Burkina et le Togo, les matchs sont toujours serrés. Donc, à partir de là, on se dit, alors, si le Burkina se dit, ok, aujourd'hui, moi, je suis en avance, et qu'il veuille prendre donc ce match à la légère, le Togolais, en prenant donc cela beaucoup plus au sérieux, parce que, effectivement, n'oubliez pas qu'en 2004-2005, si nous avons été à la Coupe du Monde, c'est aussi parce qu'au départ, les Sénégalais et les Maliens ne nous avaient pas pris au sérieux. Mm-hmm. Et, alors qu'en ce moment-là, il y avait donc une synergie entre non seulement les joueurs, mais aussi entre les joueurs, merci, les dirigeants
et puis les autres questions s'enchaînent, les ristournes.
Oui, on a parlé
du Mondial 2006,
rapidement.
Les audits des CAN 2013-2017, manque d'infrastructures, détection de jeunes talents qui fait défaut. Et puis, est-ce qu'il y a un fonds pour le football?
Oui.
Le fonds pour l'esport.
Il faut peut-être commencer par là, effectivement. Chaque année, comme dans tous les domaines, eh bien, l'Assemblée nationale, en votant le budget, il y a également une partie pour l'esport au Togo. Ce n'est pas le football, c'est l'esport. Maintenant, c'est vrai que le football prend la plus grande partie. Naturellement, peut-être 80, même 90% du budget vont donc au football. Chaque année, il y a ça. Mais le meilleur, c'est d'arriver à avoir un fonds national d'aide. Et ça, c'est prévu également par certains textes. Il y a eu donc la politique sportive, il y a eu la charte des sports, et tout cela avait prévu même la manière de trouver ce qu'il faut pour ce fonds-là. Sauf que ce n'est pas activé jusqu'à aujourd'hui. Or, pour réussir les sports ou le football, il faut naturellement qu'il y ait un fonds qui soit disponible pour financer. On ne peut jamais faire de sport sans financement. Et c'est ça, si le Bénin aujourd'hui est en train de prendre donc du large, c'est aussi parce que on a réussi à comprendre cela. Le budget du Bénin en sport fait plus de 30 milliards. Alors qu'au Togo, on n'atteint même pas les 2 milliards.
Et ça dit tout.
ça dit tout.
Merci beaucoup, Aimé. Les auditeurs comprennent qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Eric, ouais. Bon, tu as écouté les auditeurs, certains qui t'aiment très bien.
Oh oui, hein, ça ne manque pas. Mais je voudrais juste dire, nous sommes dans un débat pluriel. Et donc, lorsque je mets des analyses et que quelqu'un ne se sent pas dans ce que je dis, il peut réagir. Mais s'attaquer personnellement à moi, je crois que c'est de la provocation. Je ne vais pas répondre ce jour à Johannes et à M. Nyavo ou Nyamavo qui nous a encore cité hier au cours de l'émission. Ce n'est même pas la peine de leur répondre parce que je vois la petitesse d'esprit de ces gens-là. Alors, je voudrais dire tout simplement ce que Francis est en train de dire. Par rapport aux comptes, la reddition des comptes dont nous parlons tout le temps. Oui. C'est très important parce que, vous savez, en 2010, tout le monde avait cotisé. Tout le monde avait quand même donné 5 francs ou 10 francs pour que les éperviers puissent aller compétir. Mais après, on n'a pas eu de comptes. C'est très important. La mobilisation dont la ministre parle aujourd'hui doit être motivée également par ces redditions de comptes pour que les Togolais sachent que effectivement lorsque nous y allons de cœur, c'est que nous devons avoir forcément des résultats. Aimé a dit ce qu'il faut aujourd'hui pour que notre football puisse aller de l'avant. Je crois que de toutes les façons, croire en ces victoires des éperviers, c'est plutôt un acte de cœur. Du patriotisme en disant oui, nous voulons que le Togo gagne et c'est de cette manière merci que nous pourrons Eric, accompagner
et les auditeurs aussi. Certains sont revenus sur les agendas des chefs d'État, pourquoi on amène nos hôtes ici et pas là-bas, et puis avec le souhait que cette visite aille véritablement dans les intérêts des populations à l'eau potable qui est très rare, notamment à Jaffi et bien d'autres sujets. Isidore,
allô,
oui, Thomas, c'est Thomas, bon?
Je ne crois pas.
Oui, c'est bon.
Ok, c'est bon. Ok, toujours c'est le football qui nous intéresse et au-delà de, en dehors de l'eau potable qu'on doit nous desservir. Bon, si aujourd'hui on constate, doucement, de l'émulation des Togolais à accompagner les éperviers, c'est dû à beaucoup de choses. Vous vous souvenez? Et un premier ministre avait dit que bon, aucun Togolais ne gardera par devers lui un franc, un centime même des fonds,
des
deniers publics. Et où en sommes-nous?
C'était en 2013.
C'était en 2013. Où en sommes-nous jusqu'à présent? Non, je me souviens en 2010, on a augmenté les prix du ciment. On a augmenté les prix de boissons.
Là, on n'a même pas joué. Il y a la crise.
Voilà. on était revenu bredouille. Et pourtant, on a dit que bon.
Là, l'argent était fini.
L'argent était fini. C'était un
cas de
Winnie de Bache. mais écoutez, toutes ces choses-là, l'émulation va se bousser.
Des choses qui nous. Ça veut dire que si on avait joué, on serait revenu avec des dettes.
Oui.
Des dettes.
bon, voilà. Tant de choses que bon. Ça ne fait pas bon. Vivement que bon. On puisse gagner les matchs, je n'en suis pas tellement sûr. Mais que dire, bonne chance aux éperviers.
Oui, il y a des affaires qui rattrapent les dirigeants aujourd'hui, qui les rattraperont toujours tant que la clarté n'est pas faite. Hein? Alors on a intérêt plutôt à dire les choses et telles
Francis
qu'elles sont.
A dit quelque chose de très important.
Oui.
Quelque chose de très important. Les ristournes.
Oui, alors, oui, justement, ouais. J'allais dire deux mots là-dessus,
en fait.
Oui. Quand on parle de ristournes de la FIFA en 2006, oui, mais après que Rock est parti, eh bien, naturellement, l'équipe qui est arrivée a géré ses fonds.
Ses fonds.
Ça fait environ 1 milliard. Ça a été géré. Bon, on ne peut pas dire aujourd'hui que les ristournes là restent encore quelque part.
Non.
C'est fini tout ça. En
mais
2006,
qui a géré ça et comment l'a-t-il géré encore une
vous
fois
savez que après,
l'obligation
après,
de rendre
après,
compte
après
rédition des comptes.
Après Rock et Nyansingbé, il y avait eu d'abord
Tata
Blessi. Ensuite, il y avait une partie gérée par voilà.
Oui,
rappelez-vous, en tant que président d'un comité intérimaire,
oui.
Après, eh bien, il y a eu donc Améhi qui est passé. Non, Rock est revenu d'abord, rappelez-vous, et c'est après Rock que Améhi a repris le flambeau. Bon, et maintenant, après lui, il y avait eu Antoine Foly qui a fait, disons, un comité intérimaire de presque deux ans.
Valcaire.
Oui, avec Jérôme Valcaire en sauvant à la FIFA. Et puis, finalement, le colonel Lakpovi Guy qui est là depuis, comment dire, 2016. Entre-temps, en 2016, oui, nous avions fait quelques mois également à la fédération où on était là pour justement organiser les élections. En tout cas, refaire les statuts et organiser
la leçon, c'est que l'obligation de rendre compte, c'est le contrat entre les dirigeants et la population, que ce soit en sport, en politique, un peu partout.
C'est un contrat social.
Merci beaucoup. Eh bien, pour terminer, Thomas, on attend le temps pour les cartons.
Oui, rapidement.
Oh, alors, très rapidement. Alors, Eric, juste le carton. Juste le carton.
Oui, je ne veux pas savoir que...
Non, juste le carton.
Le carton. Un carton vert pour... la ministre des Affaires sociales qui se trouve à Genève pour présenter le rapport du Togo sur les droits des personnes handicapées.
Merci. Aimé Lebon.
Également vert pour Madame le ministre des Sports qui continue donc de sonner la mobilisation pour les éperviers.
Oui. Et Isidore.
Carton rouge sans à nos autorités qui ne prennent pas soin des feux tricolores.
Merci. Et puis, carton vert à nous tous, nous au studio, les techniciens, les auditeurs, et apprenons tout simplement avec humilité à aller au débat contradictoire. Ce que Aimé dit, je ne suis pas toujours d'accord, mais je le laisse parler. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que disent les confrères, mais je donne la parole. Et vous aussi, nous ne vous demandons pas d'être d'accord avec nous. Tout comme nous ne sommes pas toujours d'accord avec vous, mais c'est de la pluralité des débats contradictoires que le Togo va sortir gagnant. Tout ce que nous demandons, c'est le respect, la courtoisie à l'endroit de chacun. Et nous serons tous gagnants, n'est-ce pas? Rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.
Pour l'acquérir, écoutez.